Édition spéciale, Next City se réorganise, l'interview d'Hélène Romano.
Et je suis très heureux d'accueillir la vice-présidente du pôle immobilier résidentiel de Next City. Hélène Romano est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue nous voir à Radio Immo. Première chose que j'avais envie de vous demander, on va évidemment découvrir vos fonctions à Next City aujourd'hui. On va parler du marché immobilier, bien entendu. Il y a beaucoup à dire sur le marché immobilier en ce moment. On va parler du bail réel solidaire que vous portez également. Hélène Romano, très jeune, vous vous êtes dit, l'immobilier, c'est pour moi ?
Non. Je vais dire la vérité, non, bien sûr. Mais dès que j'ai découvert l'immobilier, je me suis simplement dit que je ne quitterais pas l'immobilier. Ça, c'est une certitude. Et je l'ai découvert à l'issue de mes études supérieures en sciences économie. Je voulais me diriger dans le commerce international. Et là, pour le coup, l'immobilier, ça, c'est un métier extrêmement local. Donc le commerce international ne m'a pas servi à grand-chose. Mais très clairement, l'immobilier est un métier... on peut y rentrer par hasard. Beaucoup y rentrent par hasard, mais très peu en sorte.
Comment vous en êtes venu à l'immobilier, justement ? C'était quelque chose, bon, même si ce n'était pas acquis d'avance, vous entendiez parler construction chez vous ?
Oui. Oui, je suis fille de conducteur de travaux, donc j'ai toujours entendu parler de construction. Par tradition, je dis que je suis née dans le béton, évidemment, parce que la construction, à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix de matériaux, et le béton était le matériau de choix. Et petit à petit, la construction... j'ai bifurqué, enfin j'ai vu l'ouverture que proposait l'immobilier, qui est un métier finalement qui ouvre des tas de portes qui concernent la vie des gens, l'endroit où ils travaillent, l'endroit où ils se distraient, l'endroit où ils vivent, et l'impact qu'on peut avoir, et ensuite la dimension collective de ce métier. Ce qui m'a toujours plu, et c'est que finalement quand vous passez devant un immeuble ou un bout de quartier que vous avez contribué à construire, tout le monde peut revendiquer un bout de ce quartier, le maçon, le conducteur de travaux, l'architecte, l'ingénieur, le maître d'ouvrage, le vendeur d'appartements. Et en fait, c'est un métier où vous pouvez dire c'est moi et je laisse une trace, puisque effectivement l'immobilier est plutôt pérenne, et je pense que c'est un des métiers qui est extrêmement concret.
Hélène Romano, est-ce que parfois dans ce métier, vous avez eu des doutes? Vous êtes dit, oh, peut-être que je fais une erreur et que j'aurais peut-être pas dû faire ce métier, par exemple, je sais pas.
Des doutes sur le métier, certainement pas. Des doutes quand il faut prendre une décision, parce que un promoteur, c'est finalement quelqu'un qui doit se positionner sur le futur et imaginer ce qui va être vendu, ce qui va être construit sur parfois une friche, sur un terrain, et donc il faut faire preuve d'imagination, de créativité, et là vous pouvez vous dire que vous vous trompez. Donc des doutes dans les décisions qu'on doit prendre, j'y vais pas, comme on dit communément dans notre métier, là oui. Et je trouve que c'est sain. Ce qui serait très inquiétant, c'est que nous soyons pétris que de certitudes.
Alors c'est sain et stressant, voilà, en même temps.
Et c'est sain et c'est stressant, mais c'est ce qui rend le métier très attachant, c'est qu'à chaque fois, vous êtes toujours sur des prototypes et jamais sur quelque chose de répétitif.
Alors vous avez travaillé pour Eiffage, aujourd'hui vous êtes chez Next City. Qu'est-ce que vous aimez dans cette magnifique entreprise qu'est Next City, qu'on voit partout d'ailleurs?
Ce que j'aime chez Next City, Next City est une tribu de gens passionnés, passionnés par leur métier. C'est aussi une entreprise qui fourmille d'énergie et qui laisse aux collaborateurs la possibilité d'intervenir et de prendre des initiatives. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On est dans un système d'amélioration.
On peut vraiment s'épanouir,
oui.
Quoi.
Un système d'amélioration et d'innovation continue. Donc, quand vous êtes dans cette logique, vous vous dites toujours que vous pouvez avoir une idée et que vous pouvez la mettre en pratique. Ce qu'on aime faire, c'est avoir l'idée et la mettre en pratique. Et c'est possible.
Hélène Romano, justement, pour parler un petit peu du marché de l'immobilier, parce que, je le disais, vous êtes partout sur le territoire avec Nexity. L'immobilier neuf a dégringolé ces derniers mois. On doit être à 65 000 constructions en moins sur l'année 2020, à peu près. Est-ce que ça repart un peu? Est-ce que ça redémarre? Est-ce que ça frémit? Qu'est-ce que vous ressentez?
Ce qu'on ressent, c'est que la demande est toujours extrêmement forte en immobilier résidentiel. Elle s'exprime à la fois sur les villes moyennes, ça c'est un petit peu plus nouveau, hein, on en a pas mal parlé, sur les grandes métropoles. Maintenant, le marché repart que très modérément, et bien sûr, il ne rencontre pas la demande parce que nous avons quand même du mal à obtenir les autorisations de construire, et donc l'offre,
les permis, oui.
Et les permis de construire, et donc l'offre elle est à son plus bas niveau, et la difficulté aujourd'hui elle réside à rendre finalement la construction désirable pour une collectivité, désirable pour un territoire, et c'est vrai que c'est une difficulté, parce que quand on construit il faut des équipements, il faut de l'argent pour faire fonctionner tous ces équipements. Et c'est vrai que...
Ça pose des problèmes aux maires.
Ça pose des problèmes aux élus, ouais. Qui ne sont pas faciles à résoudre.
Puisqu'il faut expliquer quand même qu'effectivement, un certain nombre d'aides de l'État ont été réduites pour les municipalités. On pense à la taxe d'habitation qui a pratiquement disparu, parce qu'il y a certaines communes qui l'ont encore jusqu'en 2024, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'argent qui rentre dans les caisses des communes, ce qui les rend plus fragiles, bien évidemment. Comment vous voyez les choses par rapport à ça, justement? Parce qu'il faut arriver à convaincre les maires, quand même, que vous avez été élu il y a un an, donc maintenant, il faut y aller. Il faut aussi que l'État soit conscient de ce qui se passe sur le terrain. Et puis, vous avez, en plus de ça, des circulaires qui arrivent ou qui sont en place. Je pense à la circulaire ZAN, par exemple. Et puis, vous avez la petite plante qui est protégée, qu'il ne faut pas détruire sur le terrain, où il doit y avoir un immeuble. Donc, ça contribue encore à la difficulté. Comment sortir de tout ça?
C'est vrai que notre métier s'est complexifié ces dernières années de façon notoire. Comment on peut en sortir? Clairement, je pense que pour les élus, depuis la crise sanitaire, ça a été assez difficile. C'était leur priorité. La priorité n'était peut-être pas de construire, c'était d'apporter des repas aux personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de chez elles. C'est toute une série de régler les problèmes dans les écoles à cause de la crise sanitaire. Et je pense que ça a été prioritaire. Ils ont été élus, ils ont été tout de suite dans le deuxième, le troisième, le quatrième confinement. Maintenant, la solution pour en sortir, elle assez simple, c'est le dialogue et encore le dialogue. Il faut comprendre que les administrés, nos clients, ont besoin de se loger. Les familles se séparent, ont des enfants. Donc le logement en tant que tel est un réel besoin, et c'est un besoin vital. On a besoin d'être bien logé, et c'est capital. Donc la source d'optimisme pour moi, c'est la prise de conscience qu'on peut freiner la construction. On peut le freiner pendant quelques mois, peut-être quelques années, mais que finalement, en bout de course, le principe de réalité va prévaloir, parce qu'un élu sera confronté sur un marché à une administrée qui lui dira qu'elle attend un logement social pour sa fille, ou qu'elle attend une résidence étudiante pour son aîné, ou qu'elle attend un logement pour sa maman malade. Donc je crois au principe de réalité, je crois au principe aussi de pédagogie que nous devons avoir avec les élus, de leur rappeler que on fait, ne serait-ce que Nexity travaille, donne 1,7 milliard de travaux en euros aux entreprises de construction, et pour la plupart ce sont des toutes petites entreprises, des PME, des TPE, et que ce sont des PME et des TPE locales. et que par conséquent, quand ils freinent un projet de construction, ils freinent aussi l'activité du plombier, de l'électricien, du carreleur local. Alors oui, effectivement, le marché a une certaine... ce sont des marchés qui, de la construction qui sont en surchauffe, mais pas partout et pas localement. Vous avez des entreprises qui ont besoin d'être soutenues.
Hélène Romano, il y a un point aussi qui pose problème aujourd'hui, ce sont les recours de la part des habitants des villes, des communes, de plus en plus de recours, des gens qui ne supportent plus l'idée d'avoir des constructions devant chez eux avec, évidemment, le bruit, la lumière l'hiver, puisque l'hiver, la nuit tombe vite et les gros projecteurs sur les grues, par exemple, c'est assez gênant dans la fenêtre de la cuisine. Enfin bon, on en passe et des meilleurs. Et là-dessus, on sent aussi que les maires ont peur de leur population, en quelque sorte. Comment arriver à gérer ça ?
Il n'y a pas de recette miracle. Il y a un outil qu'on hésite toujours à utiliser, qui est la concertation. Ça prend du temps. Il faut expliquer, réexpliquer. Il faut aussi rentrer dans un urbanisme de projet, c'est-à-dire sortir du carcan de la réglementation qu'on empile d'une année sur l'autre. Et je pense que de pouvoir montrer, grâce aux outils digitaux, à quoi va ressembler un quartier, un immeuble, et comment on peut le faire évoluer, se dire... Un étage en plus, c'est peut-être une crèche en plus, c'est peut-être un gymnase en plus, c'est peut-être un équipement qui va permettre finalement une vie plus agréable à l'échelle du quartier. Donc c'est une espèce de troc et de discussion. C'est ok, peut-être un étage de plus, c'est peut-être un peu moins de soleil, mais c'est aussi un agrément pour les habitants en matière de services et en matière de commerce, et aussi en matière de valorisation d'un quartier. Ceux qui attaquent souvent les permis sont ceux qui finalement sont très contents de voir leur propre appartement ou leur propre maison prendre de la valeur parce que le quartier nouveau ou l'immeuble nouveau va ajouter un cachet.
Et lorsqu'il y a des recours, ils n'en ont pas forcément conscience de ce que vous dites, c'est-à-dire la prise de valeur effectivement du quartier.
C'est pour ça
il faut l'expliquer.
Oui, il faut l'expliquer. Donc il faut ne pas avoir peur de la concertation, de l'explication, d'avoir recours aux images de synthèse, aux images digitales pour aider. La population, les riverains, à comprendre comment le nouvel immeuble ou le nouveau quartier va interagir.
Oui, parce que vous n'êtes pas que constructeur aujourd'hui. Vous évoluez beaucoup, c'est des métiers qui évoluent beaucoup. Vous êtes aménageur. Et aujourd'hui, ce sont des quartiers entiers qui sortent de terre avec des jardins, avec des points d'eau. Et c'est vrai que c'est assez... C'est une révolution quand même, globalement.
Oui, je crois que c'est très important. Enfin, pour rendre la construction populaire, parce que finalement, c'est la rendre attractive qui est notre enjeu. Ça passe beaucoup. On s'attache toujours à commencer par la construction. En fait, on devrait toujours commencer par l'espace public, par ce que l'on va changer à l'échelle du piéton, plutôt que de parler de projets et du nombre d'étages des projets. Et commencer par ce que le piéton va voir, comment l'espace public va bouger, me paraît capital. La place qu'on laisse aux espaces verts aussi. Paris n'est pas une ville... C'est une ville dense, évidemment, mais ce n'est pas la plus dense de toutes les villes européennes ou mondiales. Il faut juste qu'on réintroduise du vert dans nos constructions et que ça devienne une priorité, pas comme quelque chose qu'on nous impose. Il faut vraiment qu'on puisse intégrer cette donnée comme on a intégré toutes les autres.
De la même manière qu'il ne nous faut pas de l'écologie punitive, mais justement de l'écologie à laquelle on adhère tous, et ce qui nous permettra évidemment d'aller mieux au bout du bout, parce que c'est quand même ça l'objectif. Hélène Romano, vous vous engagez sur le bail réel solidaire, alors notamment du côté de Villeurbanne, si j'ai bien compris. Concrètement, pourquoi vous prenez cette décision et qu'est-ce que vous avez envie de montrer à travers ça aussi ?
Nexity a toujours été sur la ville inclusive. C'est c'est une tarte à la crème aujourd'hui, mais c'est vraiment dans l'ADN du groupe depuis très très longtemps. C'est-à-dire rendre finalement le logement accessible à un nombre très important d'habitants. Donc la question de la solvabilité est centrale chez Nexity. C'est le produit le logement. Mais si le logement n'est pas accessible ou qu'il est limité qu'à une frange de la population, on n'a pas rempli notre objectif. Donc on aide sur une certaine forme d'accessibilité du logement. Donc toutes les formes de propriété nouvelles qui permettent de rendre le logement abordable est une priorité chez Nexity. Et logiquement, tous les sujets de désolidarisation du foncier et du bâti sont une façon de rendre... On l'a fait avec le démembrement de propriété, avec l'usufruit locatif social. Et là, le bail réel et solidaire, c'est finalement permettre l'accession à la propriété de personnes qui sont sous plafond de ressources, qui veulent pas être reléguées loin, mais qui veulent rester en centre-ville, qui ont peut-être besoin aussi de rester en centre-ville. Et notre opération Asile Urbaine permet finalement à des familles d'acheter moitié prix, puisqu'elles vont acheter que les murs et le foncier, qui représente entre 30 à 40% du poids de la valeur du logement, va être acquis par un office foncier solidaire qui va ensuite facturer une redevance mensuelle au prorata des mètres carrés à l'habitant. Et c'est, je pense, une façon de permettre aux personnes qui sont sous plafond de ressources de continuer à habiter là où elles veulent.
Hélène Romano, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la rentrée de septembre?
Des permis de construire et un dialogue apaisé avec les collectivités, un dialogue de professionnels. On peut se souhaiter de relever le défi du bas carbone et de la construction bas carbone. Le défi climatique, le défi de la biodiversité est devant nous. On ne l'a pas résolu. Et il suffit de voir nos enfants, quand on leur parle, j'ai un fils de 26 ans, la peur qu'il a de se dire dans 30 ans, ce sera comment ? Et on sent cette angoisse que nous n'avons pas, parce qu'on a toujours cette impression qu'on saura trouver la solution, mais on lit l'angoisse parmi les jeunes parce qu'ils voient ce qui se passe, les événements climatiques les interrogent, ils sont de plus en plus nombreux ces événements climatiques, ils nous concernent, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont tout près de chez nous, et donc ça nous interpelle, et ce défi-là est devant nous. Et je dirais que si vous avez quelque chose à souhaiter à la profession, c'est qu'on prenne la dimension de l'enjeu qui est devant nous et qu'on trouve une solution qui soit une solution inclusive.
Et Nexity a toute sa part, évidemment,
tout à fait,
sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Hélène Romano, d'être venue nous voir sur Radio Immo. Vous êtes vice-présidente, je le rappelle, du pôle immobilier résidentiel de Nexity.
Émission spéciale Nexity se réorganise, l'interview d'Hélène Romano, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.